Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place aux idées, l'émission des Amis du Parc de Chartreuse, avec aujourd'hui en invité Aurélien Coudreau. Bonjour Aurélien. Tom Leblé, bonjour Tom.
Bonjour.
Émilie Boncarré, bonjour Émilie. Et François Descure, bonjour François.
Bonjour.
Alors, le sujet d'aujourd'hui pour cette nouvelle émission, ce sont les ressourceries au singulier ou au pluriel. En l'occurrence, un petit peu au singulier, mais ça ouvre le débat au pluriel. Il s'agit d'un projet de ressourcerie de matériaux de construction sur laquelle travaillent Tom et Aurélien, d'où leur présence à nos côtés. Alors, pour commencer, Tom et Aurélien, est-ce que vous pouvez vous présenter d'un point de vue professionnel ? Qui êtes-vous ?
Alors, Tom. Moi, je suis diplômé d'architecture à la base et fraîchement charpentier. Donc, je travaille sur les processus, les productions, les systèmes, donc de la graine à la poutre, en me basant sur les écrits du penseur d'écologie politique Ivan Illich. Et donc, j'ai rencontré Aurélien.
Donc, moi, c'est Aurélien Coudreau. Je suis charpentier donc, depuis 15 ans à peu près. Et ça fait 9 ans que je suis à mon compte. Je suis basé sur Saint-Christophe-sur-Guiers. Je suis formateur aussi en charpente à l'ancienne à côté.
Alors bien, bon début de présentation. Donc on aura compris qu'on a affaire à deux artisans, deux professionnels du métier du bâtiment. Première question qui me vient en tête, le lien entre vos métiers qui sont les mêmes hein, et le projet en gestation avancée, comme nous disait tout à l'heure Tom, de ressourcerie.
Du coup, dans mon activité de charpentier, mon cœur de métier, ça a été le colombage. Donc, tout le monde peut voir les constructions moyenâgeuses à l'ancienne.
Très joli.
Du coup, j'ai baigné dans le réemploi dès mes premières...
Réemploi des matériaux de construction.
Hein, voilà, parce que typiquement, à colombage, on récupère des matériaux de vieilles fermes issues de la déconstruction pour en reconstruire des neuves. Donc, j'ai baigné là-dedans depuis le début. Et depuis que je suis à mon compte, c'est une pratique qui me tient vraiment à cœur et je participe à un groupe au sein de MASCOP, qui est Cabestan, sur ce réemploi.
D'accord.
Et donc, de mon côté, le diplôme d'architecture que j'ai fait avec deux autres collègues était sur les processus et ce qu'on appelle les modes de production, donc les manières de produire pour faire court, et donc notamment une partie sur le réemploi. Et cette idée-là de savoir d'où viennent les matériaux, comment ils sont utilisés, qu'est-ce qu'ils font en fin de vie, donc est déjà quelque chose qui me suit depuis un moment. Et comme l'a dit Aurélien, dans notre cœur de métier, on est aussi lié au réemploi et on est confronté à plein de questions de déchets et notamment de matériaux qui sont jetés. Et ce projet est aussi une manière de répondre à un état du monde qui actuellement ne nous correspond pas et donc de proposer une alternative.
Super, on est en plein cœur de sujet avec le coronavirus qui, j'espère, interroge beaucoup de gens sur notre monde actuel. Alors, on y reviendra dans le détail un peu plus loin sur le contenu de votre projet. Donc, ce projet, il est chapeauté par une association qui s'appelle Retour aux Ressources. Association composée de 4 personnes sur Saint-Joire-en-Valdaine. Voilà, pour l'instant... Vous restez 4 personnes, mais vous n'êtes pas fermé à grandir, mais pas tout de suite en tout cas. Oui, Tom.
Si je peux me permettre
oui,
du coup de donner le
vous
nom
pouvez
des,
vous permettre,
des
bien
deux
sûr,
autres
bien
personnes
évidemment.
Qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, mais qui font partie de l'association. Donc Catherine Derum, qui est la brasseuse et la patronne de la brasserie La Dauphine à Saint-Joire. Et Cécile Chavanis, dont le papa travaillait à l'usine avant que ça soit une brasserie.
Alors, justement, il y a deux notions que vous soulignez dans votre présentation. C'est la destination actuelle des bâtiments, à savoir une brasserie, ce qui est intéressant, puisque du coup, elle est associée à votre projet de ressourcerie directement.
Tout à fait.
On en parlera un peu plus loin dans le cœur du projet et surtout l'histoire du bâtiment qui abrite cette brasserie, puisqu'effectivement, c'est une ancienne usine à soie.
Exactement, du 19e.
Donc symboliquement, c'est plutôt sympa. Au-delà de la brasserie, j'imagine qu'il y a un grand terrain, il y a des bâtiments, il y a...
On est sur 2 hectares et...
1800 mètres carrés de bâtiments.
Ouais.
Oui, c'est un joli petit terrain de jeu. Mmh. Ouais.
Nous, dans cette brasserie, on va occuper 300 mètres carrés.
Oui.
300 mètres carrés et il y aura une cour devant qu'on peut définir 1000 mètres carrés à peu près. Donc, pour nos animations, pour les réceptions de matériel et puis Bon, on reparlera des animations, mais voilà, ça sera notre terrain de jeu.
Super, et pas que le vôtre d'ailleurs, puisque vous y associez les personnes qui vont s'en servir. Ok, alors, lequel de vous deux, ou vous deux en même temps, silence pour nous expliquer à nos auditeurs surtout ce qu'est une ressourcerie de matériaux de construction.
Donc, on va partir de la définition qu'on a récupérée sur Wikipédia. Je trouve qu'elle elle présente bien les quatre valeurs d'une ressourcerie. Donc, une ressourcerie met en œuvre ses quatre fonctions, donc la collecte, la valorisation de ressources, la revente dans une boutique et la sensibilisation du public.
D'accord.
Et donc, pour résumer un petit peu, l'idée, c'est de construire le maillon qui actuellement manque entre les personnes qui jettent et la déchetterie.
Alors, du coup, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Nos auditeurs sont peut-être pas des pros des déchetteries. Alors, peut-être un peu plus les professionnels, pas forcément les individuels comme moi. Qu'est-ce qui se passe quand on amène des matériaux de construction de type tuiles, vieilles fenêtres, tuyaux PVC ou je ne sais quoi d'autre à la déchetterie, que l'on soit particulier ou professionnel ? Parce que c'est pas la même chose, hein.
Il faut savoir que toute denrée qui arrive dans la déchetterie, dès qu'elle est dans une benne, est considérée comme déchet et légalement ne peut plus être réutilisée en l'état. Donc,
elle va donc systématiquement être détruite.
Ou brûlée, ou réutilisée.
Ou revalorisée, mais par
un circuit industriel.
Un circuit industriel, une filière. Bon.
D'accord. OK. Donc. Qu'est-ce que ça change pour... on en parlait tout à l'heure hors micro. Les professionnels, ce n'est pas le même cas que les individuels. Ils ont droit à un certain nombre de mètres cubes de déchets. Je ne sais pas si c'est par jour ou par semaine à amener à la déchetterie, non ?
Sous échange monnayable, on va dire, pour
oui,
un professionnel.
Oui, ils payent déjà, effectivement.
On paye à la quantité. À la quantité, bon, ça dépend des communes. Il y a des communes qui travaillent au forfait, d'autres à la quantité. Mais c'est pas un service, c'est quelque chose de payant.
Et pour les particuliers, effectivement, pour le moment, c'est encore un service au niveau des communes. Il y a quand même des réflexions en cours pour limiter ce service et qui pose aussi la question après du dépôt sauvage. Mais par rapport donc à la question qui a été posée, actuellement, donc ces matériaux, il y a des choses qui effectivement sont jetées et qui ne sont plus utilisables en déchetterie. Et il y a tout un tas de choses qui sont jetées alors qu'elles le sont. Si on prend trois exemples concrets, on va avoir un aggloméré de béton qui peut être jeté parce qu'en fait, il est à traîner chez un particulier qui en a marre de le voir là-bas depuis 5 ans et qui n'en fait rien. Et qui n'a pas le réseau pour l'écouler ou les personnes à qui les donner, donc qui finit par le jeter. Un autre exemple, des poutres d'une vieille charpente qui sont jetées soit par ras-le-bol, soit par méconnaissance aussi, oui. En se disant c'est du vieux bois, donc ça ne marche pas. Là où Aurélien pourra nous expliquer qu'en fait c'est une bêtise. Ou encore, alors après on a l'exemple de la palette qui est quand même assez répandue, mais il y a tout un tas de choses, des carrelages, des gravats, des pierres. Par exemple, les Japonais utilisent des pierres pour faire des fondations ponctuel, juste posé sur le sol, ça typiquement c'est quelque chose que nous on utilise dans notre métier. Donc de dire aujourd'hui on va acheter ces matériaux-là alors que d'un autre côté ils sont jetés.
Alors Aurélien disait tout à l'heure hors micro aussi que avant historiquement il existait des lieux de stockage des déchets du bâtiment.
Donc historiquement moi j'étais tombé sur une conférence d'une dame à Rodez qui parlait de des lieux de réemploi au 13e pendant la guerre de 100 ans. Donc, complètement.
Ça date.
Ouais. Donc en gros, c'était des lieux où tous les matériaux issus de la déconstruction étaient stockés, quantifiés et où on estimait dans un registre tout le procédé, toutes les interventions pour quantifier la déconstruction. Et ces matériaux étaient stockés et réutiliser le jour où il y avait des besoins qui se ressentaient pour reconstruire de nouveaux édifices, en fait.
Donc, c'était une pratique qu'on a un peu oubliée dans notre société actuelle, hélas, qui est un peu la société de la surconsommation.
On n'est pas obligé de remonter si loin. Nos grands-parents jetaient quelque chose dont la manufacture ne pouvait pas être produite soi-même.
Oui.
Était
impensable.
Impensable.
Et aujourd'hui, on est quand même dans l'excès inverse, à savoir aucun d'entre nous, presque, n'est capable de produire une bouteille en verre. Mm-hmm. Pourtant, chaque semaine, on en jette des dizaines.
Mm. Ouais.
Et c'est...
Enfin, on en jette. Moi, je fais du tri sélectif.
Mais on les jette parce
que je les jette vraiment.
Non, mais elles sont jetées, refondues.
Oui.
Alors que concrètement, tout un tas de bouteilles peuvent être utilisées en l'état sans
en
la consommation d'énergie et de matière.
Ah oui, qui permettent de la reconstruire. Ouais. Oui. Pourquoi on le fait pas alors?
Par exemple, la ouate de cellulose, c'est un isolant en vrac qu'on insuffle dans les murs. Elle est issue de tous les surplus de journaux des maisons de la presse, en fait. Est-ce que s'il n'y avait pas de journaux, est-ce qu'on s'en porterait bien? Le fait de revaloriser un déchet qu'on a surproduit, on s'en contente, en fait, aujourd'hui, c'est complètement dingue. Moi, j'ai 40 ans, quand j'étais petit, je connaissais la consigne, hein, bouteilles qu'on allait au supermarché, les bouteilles étaient consignées, on les ramenait. Et aujourd'hui, on a beaucoup de laine de verre.
Pour répondre à... c'est bien que tu parles de laine de verre, parce que pour répondre à la question pourquoi on ne le fait pas, c'est qu'aujourd'hui, le verre qu'on recycle est une matière première super intéressante pour les industriels du bâtiment, notamment pour la laine de verre. Donc, c'est-à-dire que la fin de la consigne et le fait de jeter permet d'avoir une matière première pour l'industrie de la laine de verre à un prix quand même, somme toute, assez intéressant.
Oui, parce que c'est recyclé. D'accord.
C'est du recyclage.
Yes, il y en a quand même un peu. Donc l'intérêt, là aussi je vous posais la question tout à l'heure en hors micro, moi qui suis une individuelle, habitante de Chartreuse, si je fais des travaux chez moi et que j'ai des déchets de matériaux de construction, quel est mon intérêt à courir par chez vous dans votre ressourcerie à Saint-Joire-en-Valdaine plutôt que d'aller à la déchetterie d'Entre-deux-Guiers?
Je vais répondre comme on a répondu en off-micro tout à l'heure. Il y a plusieurs avantages. Déjà, il y a nos deux sourires radieux et notre bonne humeur, ce qui est quand même un avantage.
Qui valent le détour.
Et qui sont non négligeables.
Non, mais... Je confirme.
plus sérieusement, d'abord, il y a une question de mise en commun. Donc, on va prendre l'exemple du pot de peinture, à savoir, on a tous vécu l'éternel pot de peinture qui traîne dans le garage, qui devient sec au bout de quelques années et que personne n'a utilisé. Donc, si on essaye de multiplier ça par le nombre de particuliers à qui cela arrive, l'idée serait de dire, j'achète un pot de peinture à la boîte à outils ou peu importe où, je l'utilise, je me rends compte qu'il en reste un tiers, la moitié. Plutôt que de le jeter, je l'amène à la ressourcerie. Et de la même manière, quelqu'un qui aurait besoin de très peu de peinture, plutôt que de retourner à l'entrepôt du bricolage... D'utiliser que la moitié d'un pot de peinture qui, à son tour, va encombrer, et ben là, c'est de dire, en fait, on pense la ressourcerie comme un outil commun. Et moi qui ai donné ce pot de peinture cette fois, la prochaine fois, je vais pouvoir, en fait, si ça se trouve, retrouver la couleur qu'il me faut à un prix beaucoup moins important que celui du marché. Et surtout... à éviter un gaspillage. Et donc ça marche pour la peau de peinture, ça marche pour le carrelage, ça marche pour
des tuyaux PVC, comme on disait tout à l'heure.
Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que c'est un lieu de stockage et de revente à très bas prix, la ressourcerie, mais c'est aussi un lieu où il y a un réseau, un savoir-faire donc autour du bâtiment. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre des personnes en réseau qui, jusqu'à maintenant, cherchent un charpentier ou quelqu'un d'autre qui fonctionnerait de telle ou telle manière et qui, là, par ce lieu-là, c'est comme si d'un seul coup tout un tas de monde s'ouvrait à lui ou à elle, et que donc voilà, ça c'est aussi couplé à ça. Et
tout en allant boire une bonne bière
à la brasserie,
exactement.
Et échanger avec les professionnels du cru,
exactement. Ouais. Et après voilà.
Donc c'est aussi un lieu de rencontre.
Travailler en réseau, un lieu de rencontre, c'est
tout à fait
clair.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Non. Fin...
lieu de rencontre, lieu d'échange. Donc effectivement, en allant poser ces déchets de matériaux de construction, on peut aussi donc acheter, comme on disait, un pot de peinture, un morceau de tuyau PVC ou je ne sais quoi d'autre. Discuter avec des professionnels du bâtiment qui sont là aussi parce qu'ils sont venus poser ou acheter quelque chose.
Je me permets juste de rebondir sur la notion de déchet. La chose aussi sur laquelle on va être vigilante à la ressourcerie, c'est que nous ne sommes pas une déchetterie. En fait, on va récupérer des matériaux qui potentiellement sont jetés alors qu'ils sont encore valorisables, mais on ne va pas être dans le cas où on va avoir un certain nombre de bennes pour les gravats, c'est à tel endroit, le plastique, c'est à tel endroit. On est vraiment plutôt sur un maillon...
C'est pas fantastique, le plastique.
Le plastique n'est pas fantastique. Et puis nous, on essaye du coup de ne pas le récupérer, oui. Puisqu'on ne pourra pas en faire grand-chose. Donc on est vraiment sur, par exemple, des fenêtres double vitrage bois qui sont jetées, des poutres, des palettes, du carrelage, des aglos.
Et pas des fenêtres PVC, du coup.
On va essayer, en fait, de pas les récupérer. On peut en prendre, on le fera. Mais l'idée à terme, c'est de dire, regardez, une fenêtre double vitrage bois, elle peut être réutilisée pour faire une serre. Le bois peut être découpé, peut plus tard être brûlé. C'est
donc
pas le
vous
cas
donnez
avec
aussi des idées, effectivement, de réutilisation des matériaux récoltés. Oui.
Ça va être un point assez important. Je pense que sur place, on va essayer de travailler sur des choses qu'on va construire, nous, en tant que charpentiers, pour présenter des idées de revalorisation. Voilà. Donc, on va faire de la recherche un peu sur les différents types de couvertures possibles avec du déchet, peut-être monter des serres, peut-être monter des choses comme ça pour élever les imaginaires, on va dire, pour donner des idées, partager là-dessus. Et voilà, le but, c'est que les gens refassent ça eux-mêmes chez eux. On est pour...
Une diffusion des
possibilités, exactement.
Alors, dans ces matériaux de construction, alors, l'idée me vient maintenant, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce qu'on pourrait possiblement trouver des outils ?
Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, on n'y a pas vraiment encore réfléchi. Bon, on est... Lors d'animations qu'on va effectuer, ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure des activités connexes à la ressourcerie. On va sensibiliser les gens aux outils anciens, aux outils de vieille charpente qu'on utilise dans la vieille charpente. Peut-être faire des animations équarissage à la hache ou des choses comme ça. Et là-dessus, on pourra retomber sur nous.
Et peut-être même fabrication d'outils à partir de matériaux de déchets. Enfin, Aurélien peut peut-être nous parler très rapidement du fil à plomb, par exemple.
En charpente, on a un fil à plomb vraiment spécial qui est difficile à trouver dans les magasins. Donc voilà, typiquement, le plomb, on le récupère et on refabrique des fils à plomb et on diffuse ce savoir de charpente à l'ancienne par ce biais-là. Donc pourquoi pas en remettre en vente. Voilà, on va recouler du fil à plomb sur place.
Super.
Ouais.
Il y en a qui devraient être contents, là. Alors, avant d'enchaîner sur comment est né le projet, avec votre rencontre notamment, on va se faire une petite pause musicale avec Chuck Berry, Johnny B. Goode. Est-ce que Aurélien, qui a choisi ce titre, veut nous en dire deux mots avant que Lucas ne le lance ?
Retour vers le futur.
On expliquera ça plus tard. C'est parti.
Play again.
bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans ce nouvel opus Place aux idées, l'émission des Amis du Parc avec aujourd'hui la thématique d'une ressourcerie de matériaux de construction et en invité Tom Leblé, Aurélien Coudreau, Émilie Moncarré et François Descure. Alors, Aurélien et Tom, je reviens sur ce qui a été l'origine de la naissance du projet. C'est avant tout la rencontre entre vous deux. Il était une fois, quoi ?
Je vais commencer. L'idée, après le diplôme d'architecture que j'ai fait, c'est que j'avais besoin de chantier, de concret, de matière. Et donc, je me suis mis à la recherche d'un charpentier ou d'une charpentière qui se pose des questions.
C'est un peu rare, non, les charpentières,
non.
Ça existe ? Il y en a beaucoup ?
Non,
c'est vrai ?
De plus en plus.
Ouais. Ah, de plus ouais. En plus.
En formation, je suis bien concerné par ça. On a un public de 30% de
Ah, femmes. C'est bien.
Ouais, c'est génial, c'est ce qu'il faut.
Ouais. Et du coup, bon, moi, je suis tombé sur un charpentier. Ah. Et ça a été une année riche en discussions, donc c'était un CAP en un an. Et puis là a commencé une grande expérience collective et amicale.
Alors collectif, discuté, c'est on n'a pas deux. Été très rentable. Ah. C'était super.
Alors le collectif, c'est vous deux ou c'est plus que vous deux
C'est nous deux.
Oui.
Pour
ouais,
commencer.
Je pense que ouais, carrément.
D'accord.
Ouais, ça a été une super relation. On a vraiment eu des réflexions riches pendant une année sur le comment on fait les choses, pourquoi on les fait. Donc toute ma réflexion sur la rentabilité, mais c'était vraiment 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 très très bon. Donc voilà, c'est parti comme ça et puis.
De fil en aiguille.
De fil en aiguille.
Nous voilà assis ici.
Ouais, c'est clair. C'est génial.
Non, et puis il y a eu aussi un décalage d'âge, quand même, de parcours, qui fait qu'il y a une forme d'échange dans les deux sens. Enfin, voilà, moi, connaissant deux, trois choses à la charpente, arrivant d'une école d'architecture, plutôt orienté sur de l'alternative et des conceptions écologiques. Et Aurélien, à l'inverse, lui, vraiment corps de métier bâtiment, où j'ai pu apprendre tout un tas de
Avec
choses.
Avec une certaine expérience.
C'est ça, donc il y a eu un vrai échange dans les deux sens. Qui fait que c'est assez équilibré et que ça fonctionne.
Et puis dans une rythmique où moi, même au niveau expérience, j'étais très sensible au réemploi, j'étais dans une activité donc professionnelle à mon compte, ce qui nous met des fois dans un rythme et dans une acceptation de chantier où on met un peu de côté ses idéaux. Et
C'est la logique économique.
La logique économique. Là-dessus, on met un bon petit Covid, temps de réflexion, tout le monde s'arrête, on réfléchit et puis...
Arrive ce qui doit arriver.
Ouais.
Je dirais pas un bon petit Covid, parce que la pilule est amère.
Non, mais le temps, le fait de lever le pied dans son activité, ça a fait du bien
de prendre de la hauteur.
De prendre de la hauteur, voilà. Ouais, c'est ce qui un peu explique notre excitation sur ce projet et sur ouais.
Alors, on revient justement à ce projet. On disait tout à l'heure, à qui s'adresse ce projet finalement ? On a parlé des particuliers, on a parlé des professionnels. Quelle collecte, quels acteurs ?
En fait, au niveau collecte, on va se tourner à la fois vers les particuliers et vers les professionnels.
Alors, les professionnels du bâtiment ?
Professionnels du bâtiment.
Maçon, charpentier, menuisier,
plombier,
couvreur,
voilà.
Démolisseur.
Démolisseur aussi, ouais. Et peut-être nous-mêmes devenir aussi des démolisseurs pour... on a quand même une expertise de la démolition et du réemploi qui est intéressante par rapport à ça. Donc, on garde notre activité professionnelle en parallèle de la ressourcerie.
Oui.
Donc, par rapport à la collecte, les particuliers, ce qu'on veut, c'est créer un aiguillage entre la déchetterie et une route alternative pour ne pas aller sur la déchetterie et peut-être aller sur notre structure. Par rapport à ça.
Saint-Jouard-en-Valden.
À Saint-Jouard-en-Valden, exactement. Et pour les particuliers, ça peut être les particuliers qui décident de jeter quelque chose ou les particuliers qui, je suis le premier, stockent beaucoup à la maison. Et le fait de stocker pendant des années,
sans utiliser,
les denrées périment peu à peu et en fait, personne ne les aura utilisées. Donc, ça serait de remettre dans le circuit très rapidement des choses qu'on pourrait être amené à stocker. Après, par rapport aux entreprises qui stockent, donc c'est essayer de récupérer les matériaux issus de la déconstruction. Donc, des vieilles charpentes, des vieilles tuiles, des pierres de taille, des choses comme ça, qui souvent partent à la déchetterie.
Alors, on disait tout à l'heure que ça coûtait de l'argent aux professionnels d'amener leurs matériaux à la déchetterie. S'ils les amènent à la ressourcerie, qu'est-ce que ça change ?
Bah, du coup, c'est gratuit.
C'est vrai. Avantage intéressant.
C'est assez intéressant pour ça. Pour le particulier, c'est peut-être moins évident.
C'est plus une question de conscience, conscience civique et d'intérêt peut-être, effectivement, comme on disait tout à l'heure, pour récupérer ou acheter.
Et puis, c'est aussi l'investissement en donnant des matériaux dans un outil qui peut devenir commun, à savoir de dire c'est une association qui le gère, mais quelque part, de la même manière qu'une commune, une mairie, une école est un service public, nous, on est sur une forme de service public qu'on va appeler un commun, où là, l'idée serait de je donne du matériau à cette structure, sachant que je vais en bénéficier aussi et que ma communauté au sens bassin de vie va en bénéficier. Donc il y a aussi cette idée-là.
Oui.
Ok. Alors, on en vient à la question derrière. Là, oui.
Juste un petit truc par rapport aux entreprises. Il y a le fait de déconstruire et d'avoir des matériaux qu'on peut remettre dans le circuit. Il y a aussi les surplus de stock. Quand on a un chantier, on commande toujours un peu plus au cas où si on a un problème. Et souvent, ces matériaux se retrouvent dans le parc à bois de l'entreprise. Moi, je parle en tant que charpentier. Et sont stockés longtemps dehors et attendent sans jamais être réutilisés parce qu'à chaque chantier on reprévoit la même le nouveau quantitatif avec les 10% et on cumule et on cumule et on cumule et c'est vrai que bah il y a beaucoup d'entreprises qui au bout de on va dire 2 ans jettent ou même brûlent ont des bennes pour brûler les bois sur le chantier, donc on aimerait leur donner une autre alternative pour la gestion de ces potentiels déchets.
Et donc, voilà, pour résumer, pour les particuliers, l'idée, c'est proposer la remise en mouvement et la remise en commun de choses qui restent avec le « au cas où, un jour, peut-être, ça me servira », de dire bah, peut-être que ça, on peut le déplacer à la ressourcerie, qui serait un outil commun, et aux entreprises, venir répondre à un potentiel besoin qui serait là, et qui, du fait d'une rentabilité ou d'un modèle de temps assez pressurisant, n'ont pas le temps nécessaire pour se poser ces questions-là.
D'accord.
Et nous, on ne s'oppose pas non plus à une collecte potentielle, suivant ce qu'il y a à récupérer, mais on pourrait aussi se déplacer, aller chercher les matériaux. Alors ça, c'est à voir à l'usage, comment tout ça va s'organiser.
Ok, ça pourrait rentrer dans les prestations que vous proposeriez. Mmh. Super. Alors, on vient de parler de l'aspect collecte. Qui peut apporter effectivement ces déchets à la ressourcerie ? Pour que d'autres en profitent, donc on a présenté rapidement tout à l'heure effectivement la possibilité, ne serait-ce qu'en allant déposer des choses à la ressourcerie, de regarder un petit peu ce qu'il y a à vendre, à des prix défiant toute concurrence. Oui,
Aurélien ? En sachant que les réflexions sur le réemploi, en fait, on en est venu pas mal au fait en discutant avec plein d'autres ressourceries, que les matériaux ne seront... Souvent, un matériel, du fait qu'il y ait le déplacement, aller le chercher, des fois le nettoyer pour le remettre en œuvre, des fois, le prix final sur certains matériaux peut être calqué sur du neuf, avec une qualité équivalente, bien sûr. Mais voilà, pour que le modèle économique fonctionne, ça va dépendre des matériaux, mais il y a certains matériaux qui peuvent être calqués aussi sur le... Donc ça sera...
À voir au cas par cas et peu à peu.
Alors, ça deviendra des matériaux à forte intensité sociale, on va dire. Que le prix ne sera pas du matériau en lui-même, mais du travail qui aura été fourni pour le remettre en circulation aussi.
Alors, on tient compte de ça, effectivement. Je rappelle quand même... Non, mais c'était compréhensible,
oui.
Aurélien.
Ouais.
Je rappelle quand même que l'intérêt aussi, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre,
humain.
On espère qu'on va enfin pouvoir boire un coup à la brasserie très prochainement.
Plaisir.
En tout cas, en attendant, on peut y acheter des bières, c'est pas interdit. Le mode de vente, en quoi ça consiste le mode de vente ?
Alors là aussi, il est en réflexion. Comme une bonne partie du projet, même si on avance. Donc, le mode de vente, a priori, ça serait sous forme d'adhésion à l'association. Donc, l'idée, parce que voilà, quand une association vend, Si elle ne vend pas à ses membres, elle est soumise à la TVA. Donc il y a tout un tas de règles sur lesquelles on s'est déjà un petit peu penché, sur lesquelles il faut qu'on se penche un petit peu plus.
Ah oui, parce que là, du coup, vous allez dépasser les quatre membres actuels s'il
oui,
faut
voilà.
adhérer à l'association.
Exactement. Donc ça, c'est une piste possible. Et donc l'idée, pour l'instant, c'est qu'on est un peu ouvert à toutes les pistes et on n'a pas encore décidé à cet endroit-là.
Après, il peut y avoir plusieurs qualités de membres. Des membres actifs, des membres, je ne sais pas si ça se dit passifs, en fait, qui seraient juste...
Consommateurs.
Consommateurs, voilà, exactement. Et d'autres acteurs dans le projet.
Oui, totalement. Ouais. Et donc, sachant que cette vente, elle n'est pas là pour générer un profit. Elle est là pour payer les charges du lieu. Parce qu'on a déjà eu la question qui s'est posée, mais de dire, mais en fait, moi, je peux déjà aller récupérer des matériaux, je n'ai pas besoin de vous. Ce qui est une remarque tout à fait juste, sauf qu'il y a plein de particuliers et de professionnels qui n'ont pas le temps de faire ça, qui ne veulent pas le faire, et qui auraient à bénéficier d'un lieu qui le fait pour eux, et qui le fait avec plaisir. Et donc là, l'idée, ça serait aussi ça, de dire, nous, ce qu'on veut simplement, c'est que ce système fonctionne, qu'il puisse payer ses charges, et pouvoir financer des projets collectifs ou des petites formations. Donc on pourrait dire que c'est un bilan comptable nul, et donc ce qui nous permettrait d'avoir des tarifs vraiment bas. Donc voilà, l'idée, c'est avant tout faire vivre ce petit système, mais pas générer de profit.
Ma réflexion sur le prix des matériaux se basait sur des ressourceries qui cherchent à rentabiliser professionnellement, voilà, à
payer avec des salariés,
dans un modèle
économique
plus classique.
Ce qui ne sera pas le cas pour vous dans
fait.
Un premier temps.
Voilà. Exactement.
Ah oui, carrément.
Faut le redire. En termes d'organisation, ça sera ouvert quand ? À quelle fréquence ?
Alors, du coup, on va y aller à tâtons, en fait. On se base déjà sur une ouverture le vendredi après-midi, ce qui calque bien avec le dépôt potentiel de produits par les professionnels, fin de semaine. C'est souvent à ce moment-là qu'on va à la déchetterie. Donc, une ouverture le vendredi après-midi. Et après, on ouvrira un samedi par mois, mais on va vous en reparler après, après plus longuement sur nos activités annexes à la vente de matériaux.
Et l'idée de cette demi-journée d'ouverture, c'est de dire autant au dépôt que des personnes qui viennent acheter. Donc c'est une espèce de temps où la ressourcerie est ouverte.
Autant
donc,
sur la dimension collecte que sur la dimension...
Exactement.
D'accord.
Donc ça, c'est l'idée. Avec, on a 300 mètres carrés de locaux à l'arrière de la brasserie La Dauphine, où là, les matériaux seront exposés, avec un système de prix probablement déjà fixé, avec, et puis il y a aussi temps d'échange sur des questions. Donc une personne qui... par exemple, à un chantier, et qui peut aussi voilà, demander à Aurélien, à moi ou à d'autres personnes qui gravitent là, j'ai tel besoin, qu'est-ce que vous avez ? Et peut-être aussi ouvrir d'autres possibilités qui, avant de venir à la ressourcerie, n'étaient pas envisagées.
Bien, le champ des possibles. En termes de gouvernance, vous n'avez pas l'intention de faire ça tout seul dans votre coin, visiblement ?
Non.
Vous envisagez une présidence collégiale ?
Ouais. On est bien attaché à l'horizontalité.
Avec les quatre fondateurs, peut-être
ouais. Entre les quatre fondateurs.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de dire on a envie d'être sur une petite unité pour commencer, ne pas grossir, en fait. Un outil qui fonctionne plutôt que croître, en fait, avant tout, et voir au fur et à mesure si réellement un besoin de d'autres membres actifs se fait sentir. Mais a priori, on serait, nous, sur l'envie de générer la création de projets semblables par d'autres personnes, plutôt que de dire « venez, on sera 50 et on va grossir », de dire « non, on crée 10 ressourceries de 5 personnes qui, elles, fonctionneront en réseau, du coup, avec leur identité propre, leur charte de valeur, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble, mais qui, par contre, permet d'exprimer au maximum les envies de chacun sans tomber dans... Ben voilà, c'est essayer de trouver la posture d'équilibre entre individu et collectif, ce qui est quand même un gros défi. »
Le but, si on
ça veut... Ça demande que... de poser les égaux, là, quelque part, déjà, pour commencer.
Non, ouais, le but, si on veut que les matériaux soient mieux réemployés, en fait, il faut que des structures comme ça naissent dans toutes les communes, en fait. Un lieu de stockage. Dans le réemploi, le problème, c'est le lieu de stockage. En gros, c'est la mémoire RAM de l'ordinateur, en fait. Il faut pouvoir stocker en attente d'avoir une demande. Donc, c'est vraiment la grosse problématique. C'est pour ça qu'on s'est basé sur le lieu avant tout, en fait. C'est le lieu qui a décidé du projet.
Et au fur et à mesure, ce lieu, en fait, fait que ça nous amène des ouvertures et des potentialités à comment on va l'aménager, et pas, du coup, une espèce de conception hors sol, en disant « notre ressourcerie devrait être comme ci, comme ça, maintenant,
ouais.
Cherchons des locaux. »
On ne fait pas les choses à l'envers. On voilà. Part du lieu pour construire.
Alors,
ouais.
Alors, pour le coup, on fait les choses à l'envers par rapport à la manière qu'on a de faire d'habitude, à savoir, d'habitude, on planifie un projet, puis ensuite, on va chercher. Là, on est vraiment parti du lieu qui, quelque part, s'est présenté à nous. Enfin, on est quand même allé le chercher. Et ensuite, on construit. Donc, par exemple, pour l'histoire du chantier qu'on a fait, en démolissant, en déconstruisant, parce qu'on a plutôt déconstruit que démoli, des matériaux, on s'est rendu compte que d'un seul coup, on allait faire des cloisons avec ces matériaux, ce qu'on n'avait pas pensé avant. On utilise un échafaudage mobile qui nous permet du coup de déconstruire la toiture à des endroits. Et en le faisant, on s'est dit, mais tiens, le bâtiment, ça ne sera pas isolé. Ça serait intéressant d'avoir une cabine isolée qui serait notre bureau, qui pourrait fonctionner sur les mêmes modèles avec quatre roulettes. Et en fait, tout ça ne peut arriver que parce qu'on réfléchit en même temps qu'on fait et qu'on fait en même temps qu'on réfléchit. Donc il y a aussi cette idée-là dans la ressourcerie.
De ne pas rester essentiellement sur la théorie. Mmh. Il y a du pratique.
Ouais.
Très bien. On va reprendre notre souffle hein, quand même, hein, parce que ça dépote, ça y va fort. Une petite pause musicale avec Shalom Aleichem. Je ne sais pas si je prononce bien Aurélien.
Ça m'a l'air pas mal, ouais.
Ouais, moi je pense c'est bien.
C'est bien, merci, ouais. Je reviendrai. Barcelona, JP, Kletzmer Orchestra. Ils ne m'ont pas gâté là, hein, au niveau des titres.
Sur la fin, on peut mieux faire. Hein.
Bienvenue à tous dans ce nouvel opus, les amis du parc, place aux idées. Alors des idées, ça foisonne aujourd'hui avec un sujet qui est celui de la ressourcerie des matériaux de construction avec comme invités Aurélien Coudreau, Tom Leblé, Émilie Moncarré et François Descure, des amis du parc. Alors Tom, on va passer à la troisième partie de la présentation de cette ressourcerie et vous avez une transition à nous faire. On vous écoute.
Donc, la ressourcerie, c'est l'idée d'un lieu ouvert à tous, mais c'est surtout un prétexte. L'idée centrale de cette ressourcerie, c'est de défendre d'autres mondes, d'autres manières de travailler, de penser et de faire, que celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Donc, la rentabilité à tout prix, la productivité avant le rapport humain, l'économie des coûts avant celle des énergies, le dénigrement du passé et l'encensement de l'avenir et du tout technologique, la course au temps et au profit. On s'appuie donc sur un certain nombre de valeurs, de travaux, de réflexions collectives et individuelles. Et donc là, on va vous expliquer pourquoi cette association et cette ressourcerie s'appellent Retour aux ressources. Alors, tout à l'heure, Sophie a dit que c'était important ce qu'on mettait derrière les mots. Et donc, je vais commencer par deux gros mots.
Ouf.
Des mots importants. Le premier, c'est politique. La politique, pour les Grecs, c'était la police, la vie de la cité et la vie en commun. Et pas les gesticulations calculées de technocrates diplômés. Le sens de ce mot, il a été rapté, c'est devenu une peur d'en parler. On hésite, on bafouille, on se retient, on se sent coincé entre le désir de faire ensemble et l'impossibilité de parler politique. Faire ensemble, c'est faire de la politique. L'écologie est la science des relations. Elle est politique. C'est un fait. Mais surtout, c'est une bonne nouvelle. Le vrai danger, c'est que l'écologie soit dépolitisée, qu'elle ne soit qu'affaire d'individus isolés. Parce que cette écologie-là, d'individus isolés, elle arrange un marché. Elle s'adresse à des consommateurs et non à des citoyens. Et il y a une grande différence entre les deux. Le deuxième gros mot, c'est radical. Ça n'a rien à voir, mais absolument rien, avec l'extrémisme. Radical, c'est ce qui va à la racine des choses, des problèmes, qui se posent les bonnes questions. Et les bonnes questions, souvent, c'est celles qui fâchent. C'est celles qui obligent à changer ce qu'on ne veut pas changer. L'écologie est radicale, autant qu'elle est politique. Et cela inquiète un système établi. La ressourcerie, donc, elle fait de l'écologie politique radicale. Dit comme ça, ça fait peur. Hein. Alors que si on traduit en respectant les mots, ça veut dire du commun, de l'intelligence, interreliée, du vivant, qui cherche à solutionner des problèmes à leur base. Des problèmes comme le déchet, le gaspillage, la mort des savoir-faire, de la biodiversité dans le vivant, dans la nature, au travail, la disparition des lieux de production locaux et la perte du lien social. Tout ça, ça fait partie de la crise écologique. La ressourcerie, c'est donc un lieu qui cultive le sens des mots, où on peut se les réapproprier, où on s'éduque les uns et les autres. Un lieu où penser et défendre une culture du faire et du savoir-faire, ensemble.
Bravo, bravo, on applaudit. Oui, c'est intéressant. Il y a plein d'idées passionnantes dans tout ça. Moi, je trouve dommage, pour reprendre l'écologie, je trouve dommage qu'on colle ça, par exemple, à la gauche. Hein, moi, ça fait 30 ans que je vote écologie, pas parce que c'est à gauche, mais parce que je suis profondément convaincue de l'intérêt de travailler sur l'écologie.
C'est transversal, ouais, ça concerne
bah oui,
tout
ça
le monde.
Ça, ça concerne voilà, juste c'est ni à droite maison. Ni à gauche, voilà, c'est complètement transversal.
Ouais.
Mais bon,
et c'est surtout populaire.
Oui, bah ça devient populaire de plus en plus, effectivement.
Mais au sens de populaire, de répandu dans les couches populaires de la population. Pas
ouais.
Forcément qui
moi,
a la cote.
Je trouve un petit peu dommage qu'il nous faille des chocs comme le coronavirus pour que ça prenne un peu plus d'ampleur. Bon, c'est peut-être le bon côté du corona, on va dire.
L'esprit humain fonctionne au choc, donc...
Ouais, il nous faut des électrochocs. Ok. Est-ce que Aurélien veut interagir avec
non, tout est dit.
Cette jolie transition de Tom, d'accord. Alors, bah maintenant, puisque on parlait de l'association Retour aux ressources, alors je vais vous les plaire quand même parce que alors Retour normal, OAUX et ressources. C'est pour ça que j'ai du mal à le dire, parce que c'est deux consonnes qui se suivent. C'est R apostrophe, source comme une source au pluriel. Voilà. Alors, explication du nom de l'association.
Bon, du coup, il y a un premier sens qui est... Ouais, on parle des ressources. Retour aux ressources, ça veut dire réutiliser des ressources qui fonctionnent encore, en fait, et avant de les considérer comme déchets. Le retour aux sources, c'est...
Aux sources.
Ah, oui,
le retour aux sources, c'est retrouver des savoir-faire qu'on a oubliés,
des
principes de bon sens qui sont passés à la trappe à cause de la technologie, comme tu en parlais tout à l'heure, Tom.
Et des principes économiques aussi.
Et du coup, c'est un gros clin d'œil à Retour vers le futur. Je trouve que, voilà, on va entamer... On continue vers le futur, on n'est pas à nier tous les progrès technologiques et loin de là, moi je suis content d'avoir un smartphone dans la poche, il y a des choses magnifiques qu'on a fait, mais voilà, on va essayer de faire un futur avec le retour au passé, tout mélangé avec les belles innovations qu'on a, et voilà, c'est un gros mélange.
Si on peut être un petit peu cliché, on en parlait tout à l'heure off micro, c'était l'image du déplacement à cheval, puisque la traction animale, elle a été réellement abandonnée massivement après la Seconde Guerre mondiale avec le remembrement des campagnes, mais c'est quand même quelque chose qui revient notamment dans certaines villes avec la collecte des déchets hypomobiles, donc faits par des animaux. Et donc on pourrait tout à fait imaginer un retour vers le futur d'une société qui se déplacerait un petit peu plus à cheval, toujours avec un GPS ou un smartphone. Et dans cette idée de retour vers le futur, il y a cette idée aussi de pouvoir avoir un débat qui aujourd'hui n'est pas possible parce qu'à la fascination de l'avenir technologique qui est le nôtre actuellement, on oppose tout le temps l'idéalisation du passé. Donc si on n'est pas dans l'ère du temps, ben, on est forcément quelqu'un
de rétrograde.
De rétrograde. Et en fait, c'est un non-sens qui crée du pour maintenant ou pour le passé, donc pour ou contre. Ça clive le débat, ça permet surtout de l'éviter en fait. Et il y a une montagne de savoirs, d'outils, de techniques et de lieux qui nous viennent du monde d'avant et qui nous seraient diablement utiles aujourd'hui. Et en fait, il y a plusieurs raisons importantes à leur inutilisation actuelle. La première, c'est destruction et oubli de ces savoir-faire, de ces lieux. Il y a un imaginaire qui est bridé aussi, avec cette phrase éternelle qu'on entend chacun dans les discussions écologiques qu'on peut avoir, c'est « on ne va pas retourner à la bougie ou à la lampe à huile, la technologie va résoudre nos problèmes ». Le troisième aspect, c'est le temps. L'impératif du vite maintenant nous empêche en fait de considérer d'autres modèles. Et le dernier dont on pourrait parler, c'est la solitude. Parce que la plupart de ces outils furent et qui peuvent être sont des outils collectifs et humains. Ils demandent d'avoir un rapport social de proximité, de confiance, d'entraide. Et ça ne colle pas avec une logique de concurrence et de vite maintenant. Et donc tout à l'heure, dans deuxième partie, Aurélien a parlé d'intensité sociale, donc qui est un terme qui a été développé par le réseau Ecobâtir. Et donc l'intensité sociale, c'est la part humaine au travail. Et donc il y a aussi l'idée qui est assez forte avec la ressourcerie d'appliquer cette notion-là et de défendre un autre rapport au travail, aux objets, aux techniques, au temps. Et ça nous permet de glisser sur les low-tech. Donc les low-tech sont en fait une technologie, basse technologie en français. C'est un ensemble de techniques simples, pratiques, économiques et populaires. Et ils s'opposent au high-tech. Et ils peuvent faire appel à des solutions techniques industrielles qui permettent de les construire. Donc deux exemples très simples, un low-tech, c'est un marteau ou un vélo qui permet ensuite d'être utilisé avec l'énergie métabolique qui est l'énergie du corps humain.
En gros, on est des amis connectés.
Il m'a fait rire tout à l'heure quand il a dit hors micro, il peut encore rire. C'est vrai que je ne savais pas qu'on avait des amis en chartreuse, mais super, bienvenue. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est votre mode de fonctionnement en mode intelligence collective à tout niveau. Autant que faire se peut, que ce soit dans la gestion de l'association, le fonctionnement de l'association, ou dans votre interaction avec j'ose pas dire client du coup, avec les utilisateurs.
Les partenaires.
Les utilisateurs et partenaires futurs de votre ressourcerie. Tout ça est très intéressant parce qu'effectivement, c'est la richesse de ces échanges qui peuvent permettre d'aller plus loin et d'évoluer aussi. Dans un futur proche. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les projets et les ateliers que vous pensez mettre en place. C'est Aurélien qui drive ça.
Je vais vous en parler un peu. Non, pas spécialement. On drive tous ça en même temps. Mais en fait, donc, ce qu'on aimerait bien développer, c'est en parallèle de l'activité de vente de la ressourcerie, c'est en gros une journée par mois où on fait une journée à thème. Sur différentes choses. On a plein d'idées, on va partir, attention, dans tous les sens.
Accrochez vos ceintures.
Hein. En route pour retour vers le futur.
Voilà. Bon, typiquement, moi je sais faire de la charpente à l'ancienne. C'est un savoir qui commence à s'oublier chez les charpentiers. Tout le monde a les plans techniques qui sortent de l'ordinateur. Et c'est une pratique qui s'oublie en fait. Moi, ce que je peux faire, par exemple, un week-end, je vais organiser une journée de sensibilisation ouverte aux charpentiers ou aux particuliers intéressés sur le piquage de vieilles charpentes à l'ancienne. Le principe, c'est de tailler des vieux bois tout tordus et qu'ils soient parfaitement taillés. Donc ça peut être l'organisation d'une journée comme ça. Ensuite, par exemple, on peut se faire une table ronde sur la gestion des ressources de la forêt de manière raisonnée.
Alors si je peux me permettre de rebondir à cet endroit-là, parce qu'Aurélien parle du piquage, avec des bois tout tordus, on a par exemple aujourd'hui un rapport à la forêt qui nous faut des fûts bien droits, bien parfaits. Donc tous ceux qui sont
comme
tordus...
Comme les fruits, comme les légumes,
exactement.
C'est la norme.
Donc s'il est tordu, les déviants, on pouvait les couper et les remplacer par des gens bien droits, uniformes, ça serait intéressant. Et donc du coup, l'idée aussi voilà, de ces ateliers, c'est peut-être de pouvoir questionner, de dire une forêt avec du vieux bois tordu, typiquement, localement, du châtaignier que personne n'arrive à valoriser.
Ah, je m'inscris en faux. Les cannes boursiers, il me semble qu'ils utilisent essentiellement du châtaignier pour faire leurs cannes. Hein,
ouais. Tout à fait. Mais dans la construction, typiquement, là, il va nous falloir des fûts droits. Et l'idée de cet atelier piquage pourrait tout à fait être de dire on met en réseau des acteurs de la forêt qui, eux, pensent, et c'est le cas puisque j'en rencontre plusieurs, ils me disent on n'arrive pas à faire quelque chose de nos châtaigniers, de dire attention, nous, on a ce savoir-faire du piquage et du bois pas droit. On l'utilise, et ce que dit Aurélien, ce savoir se perd. Donc, par ricochet, cette forêt-là ne peut plus vivre. Et donc, du coup, on décide de la couper rase pour faire de la plantation de Douglas, par exemple. Donc, l'idée, elle est aussi là-dessus.
Ouais. Et du coup, l'idée aussi, c'est de, dans ces journées à thème, peut-être rencontrer une personne qui va, de l'association, qui va dire « Ah, bah moi, par exemple, je sais installer un système Linux sur un ordinateur. » Eh ben,
échange de bons procédés.
Dans trois mois, samedi, c'est toi qui as les rênes et c'est toi qui t'occupes de la formation. On vient tous et tu nous apprends à faire ça. Et ainsi de suite. On aimerait bien que ça, voilà, que ça vive en fait. C'est qu'on soit pas seul décideur sur les journées à faire, que ça. Apprennent son chemin et dans tous les sens possibles.
Oui, alors ça, on trouve ça pas mal dans les tiers-lieux dont on a parlé dans la dernière émission. Mmh. Je sais que la Bonne Fabrique au SAP fait des ateliers comme ça, fabrication d'éponges de vaisselle ou je ne sais quoi d'autre. Ouais. Oui, c'est un petit peu dans cette idée-là. On est toujours dans une dimension d'échange, de rencontre, d'échange de savoir.
C'est ça.
En toute sympathie.
Et Aurélien a donné un exemple, par exemple, qui est celui des bocaux. Donc faire ses bocaux et de dire bah, tout seul c'est
tout
chiant.
Seul c'est chiant, à plein c'est bien.
C'est magnifique.
Donc voilà, l'idée c'est se regrouper autour d'une tâche qui peut être rébarbative à la maison. Allez, on met tous les réchauds,
on
amène les stérilisateurs.
Ou
de faire son brassin de bière, pourquoi pas.
Exactement, on étoffe tous les haricots ensemble en discutant, en buvant bonne bière.
C'est pas la même. Hein.
Et voilà, et on finit la journée.
Et le mot tiers-lieu a été donné dans un des 8 points qui définissent les tiers-lieux, il y a l'idée de se sentir à la maison plus qu'à la maison dans un tiers-lieu. Et il y a aussi cette idée-là de dire de créer un espace social qui fait qu'on s'y sente bien, qui est ouvert à tous, qui ne soit pas un entre-soi et qui permet d'ouvrir sur d'autres horizons que ceux qu'on avait avant d'y entrer, en fait.
Oula, ça foisonne, hein, ça bouillonne.
On avait prévenu.
Il y a de la matière, hein, là. Bon, allez, une émission n'y suffira pas. Hein. Alors, rapidement, très rapidement, il y a quelques points que vous n'avez pas évoqués. Le cœur de l'association, vous aviez pointé ça du doigt dans votre préparation d'écrit, Tom. Je ne sais pas ce que vous mettiez derrière ça.
Le cœur de l'association,
de ses rêves.
Je pense qu'on en a bien parlé avec les valeurs et les mots qui nous portent. C'était cette idée-là. Les rêves, on en a listé un certain nombre.
Les rêves, je ne sais pas. On voulait développer. Dans le bâtiment, on a un problème de chute d'isolant. Quand on isole une maison, par exemple,
dit-il avec sa
rêve,
petite
quand on isole une maison, par exemple, on a des chutes d'isolant dont on ne sait que faire, qu'on emmène à la déchetterie. Y a que, voilà. Par exemple, un rêve, ça serait de développer un broyeur sur place. Gestion, on récupère toutes les chutes d'isolant, on fait passer le mot à tout le monde et on les reboit et on en refait de la matière vendable et insufflable dans d'autres chantiers.
Voilà. Et l'idée que cet outil-là puisse être diffusable et que d'autres gens le copient et d'y aller, enfin de ne pas être dans l'idée de on a inventé un super truc avec Aurélien, on va le breveter, on le garde pour nous et ensuite on le vend.
Non.
C'est vraiment l'échange, oui, d'accord. Mm-hmm. La transversalité dans tous les sens du terme.
La propriété intellectuelle, je trouve, ouais. Voilà. D'accord.
Ouais, on est toujours dans l'ego, hein.
Oui, oui.
Et dans le système capitaliste. Allez, une dernière pause musicale avant de clore cette émission avec le mot de la fin des Amis du Parc. On va écouter Rocket 69, Connie Allen.
Rocket 69, rocket 69. We'll ride and glide and be so satisfied. Rocket
et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la fin de cette émission des Amis du Parc, Place aux idées, une émission spécialement dédiée à un projet de ressourcerie des matériaux du bâtiment, avec en invité Aurélien Coudreau, Tom Leblé, Émilie Moncarré et François Descure des Amis du Parc. Alors, Aurélien, tout va bien. Aurélien et Tom nous ont parlé pendant toute cette heure d'émission de ce projet de ressourcerie à Saint-Jouard-en-Valdaine. Alors, qui va ouvrir quand ?
Le 15 mai 2021.
C'est précis. On n'ajoute plus rien parce que sinon ils nous mangent toute la bande son. Enfin, on leur fera dire au revoir quand même parce que ce sont des passionnés. Je vais maintenant me tourner vers Émilie des Amis du Parc pour citer quelques démarches un petit peu similaires sur, qui sont aussi dans Ecolab pour le coup.
Oui, alors avant de citer les autres projets, c'est vrai que je voudrais rebondir quand même sur tout ce qui a été dit. Donc par rapport au projet Ecolab, les Amis du Parc, bon, on est ravis d'entendre de telles initiatives qui sont complètement dans le cœur de projet d'Ecolab, c'est-à-dire des initiatives citoyennes qui naissent sur des projets autour de la transition écologique. Donc c'est vrai qu'avant de jeter ou d'acheter neuf, et ben, tout simplement, si on pouvait être un peu éco-attentif sur est-ce que le geste que je fais, que j'achète ou que je jette, est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement ? Est-ce que je n'ai pas d'autres solutions, d'autres alternatives ? Et c'est vrai que tous ces projets de ressourcerie, c'est complètement dans cette idée-là. Donc sur le projet Ecolab, il y a d'autres projets similaires. Donc là, on a une ressourcerie de produits de chantier, de matériaux de chantier. Il y a un projet qui s'appelle ArskiTech qui lui valorise le ski. Donc c'est quand même aussi un déchet dans notre région qui est en volume et là ils permettent de valoriser ce déchet-là.
C'est celui qui fait des meubles avec les skis, non ?
Voilà, oui, des meubles, des dômes géodésiques, ils ont beaucoup de chouettes projets. Il y a également le projet Lainage d'en haut qui valorise la laine, donc des élevages de moutons en chartreuse. Donc là aussi, c'est un déchet qui aujourd'hui est un déchet. Hein. Les éleveurs ne savent plus quoi faire de leur laine. Donc là, l'idée, c'est de valoriser la laine pour en faire des matelas ou des produits en laine feutrée. Il y a également l'alternateur que beaucoup de monde connaissent, où là, c'est plus des matériaux du spectacle, donc de matériaux de scénographie ou de costumes. On a aussi un projet en cours de réflexion d'une ressourcerie, donc là, plus de produits de la vie quotidienne, donc des vêtements, des jouets, des livres, du matériel de sport, du mobilier, qui se ferait sur la communauté de communes cœur de Chartreuse. Donc ça, c'est en cours de réflexion, il n'y a encore rien de fait, mais voilà, il y a une étude de faisabilité qui est en cours. Donc ça peut être aussi un super projet très complémentaire des autres. Et puis on a aussi le site internet Chartreuse qui propose aussi du réemploi, du don, du prêt de matériel, d'échange de services. Donc voilà, il y a quand même pas mal de projets sur le territoire et voilà, on est ravis de tout ça. François, tu veux rajouter quelque chose ?
C'est très bien.
C'est très bien. Je redonne la parole à nos intervenants.
À moi surtout. Bon, eh ben on va conclure cette émission. Est-ce qu'un petit mot de la fin, messieurs ?
Merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir. Cette radio est la vôtre. Hein. Vous pouvez revenir parler de votre projet quand vous voulez. Vous serez
avec
toujours
grand
les
plaisir.
Bienvenus.
Ouais,
avec grand plaisir.
Vous serez toujours les bienvenus. Merci en tout cas de votre participation active et réactive. C'est le moins qu'on puisse dire à cette émission.
Merci.
Et bon vent dans ce beau projet. Et à très bientôt. Merci également aux Amis du Parc, Émilie et François, qui sont derrière. Alors je les oublie un petit peu. Merci à Lucas, à
Merci
la technique.
À vous.
Merci.
Sa présence est importante. Et à très bientôt.